Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Alors, il est rare que nous consacrions un tour de la question au fameux carnet rose, mais une naissance lundi a tenu les admirateurs de la famille royale et tous les bookmakers en haleine, celle du petit Baby Boy, dont on connaîtra le prénom aujourd'hui aux alentours de midi. Un petit garçon, septième dans l'ordre de succession, qui n'a donc quasiment aucune chance de devenir roi, mais qui fait évidemment la fierté de ses parents, le prince Harry et Meghan Markle, le duc et la duchesse de Sussex. On va entrer dans la vie, dans l'intimité de ce jeune couple. Regardez ensemble comment il imprime sa marque doucement vis-à-vis de l'ancienne génération aussi. Nos invités sont installés pour nous en dire davantage et on attend vos questions si vous êtes vous aussi admirateur et fan de cette famille, Julie.
Le 39-21, on attend vos appels, 50 centimes la minute.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
It's a baby boy, Beyoncé, baby boy, voilà. C'est le message qui a circulé dans tout l'air britannique à partir de lundi 15h20 lorsque le communiqué de Buckingham est tombé. Isabelle River, bonjour.
Bonjour.
Chef du service royauté au magazine Point de Vue, auteur de Charles et Camilla, une histoire anglaise chez Fayard. Aurélie Raya est avec nous également, journaliste à Paris Match. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Vous revenez tout juste d'ailleurs de Grande-Bretagne. Vous allez couvrir régulièrement l'actualité royale et vous étiez encore là-bas, sur place. Ce week-end jusqu'à lundi.
Oui.
Vous étiez donc sur le sol britannique lorsque Meghan a accouché.
Mais tout à fait.
Ouais. Et ça a été un grand moment pour vous.
Ah, mais grand moment, surtout qu'on bouclait. Au même moment,
Paris Match.
Donc ça s'est joué à très peu de temps.
Oui.
C'est bien qu'elle ait donné naissance lundi à 15h.
Alors c'est quoi la une de match alors?
Ah bah c'est le couple.
C'est pas le bébé.
Non, puisqu'on ne l'a pas vu.
Oui.
Non, c'est le couple.
Donc c'est le couple.
Oui. On dit qu'ils sont contents.
Oui, évidemment. Et c'est la belle histoire de la semaine. C'est avec ces mots émus que le prince Harry l'a annoncé lundi 15h24 en direct de Windsor, avec en arrière-plan les écuries du palais royal. Écoutez le prince.
Mother and baby are doing incredibly well. It's been the most amazing experience I can ever possibly imagine.
La maman et le bébé vont bien et c'est une expérience au-delà de l'imaginable. Isabelle, comment vous l'avez trouvé, le prince? Il était profondément naturel mais touchant, c'est vrai?
Il avait l'air très ému, il avait l'air aussi un petit peu fatigué. Parce qu'en réalité, quand le communiqué du palais est tombé annonçant que le travail avait commencé, le bébé était déjà né.
C'était horrible, le travail.
Le communiqué est tombé vers 14h, mais le bébé était né à 5h30 le matin même.
Oui.
Pourquoi
d'ailleurs cette communication est
un peu hasardeuse? Oui. Ils ont un peu menti en fait.
Oui, mais pour laisser paix autour
ils ne voulaient pas révéler le lieu où Meghan allait accoucher, parce qu'elle a longtemps laissé croire qu'elle accoucherait chez elle, et quand on a dépassé le terme, ils allaient l'emmener à l'hôpital, ils l'ont fait dans la nuit.
Oui.
Et je pense qu'ils ont voulu ensuite qu'elle rentre chez elle.
Mm-hmm.
Donc ils voulaient un peu un laps de temps pour être tranquille, l'annoncer à toutes leurs nombreuses familles également.
Oui.
Et donc c'est pour ça qu'ils nous ont un peu, ils n'ont pas été très clairs le lundi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a accouché à l'hôpital.
Elle est revenue chez
elle.
Je suis entourée de journalistes qui les suivent toute l'année, qui sont des Royal Watchers, qui envoyaient des textos au service de communication qui répondaient non, rien de nouveau. Le lundi matin.
Alors qu'il était né l'enfant. 5h24,
donc on était un peu détendus, on va dire, jusqu'à ce que ce premier mail arrive de went into labor. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas totalement menti. Elle a effectivement eu des contractions le matin, mais en fait, il était né, donc on était un peu.
Oui,
on peut perturber en fait.
Le communiqué disait que le travail avait commencé aux petites heures de la matinée et que le prince Harry était à ses côtés.
Tout ça pour dire, Isabelle River et Aurélie Raya, que d'abord, ils maîtrisent leur communication comme ils le souhaitent, mais alors avec un petit pas de côté, parce que c'est vrai que ça a déstabilisé ceux qui suivent en général cette famille, mais pour être tranquille, pour être plus serein, pour éviter la foule, pourquoi? Comment vous analysez ça, Isabelle?
En même temps, il faut. C'est toujours une pente un peu glissante. Surtout quand on connaît les relations entre la famille, l'historique des relations entre la famille royale et la presse britannique. C'est un historique qui a souvent été tumultueux. Il y a eu des hauts et des bas, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc il ne faudrait pas effectivement qu'il y ait de nouveau une forme de méfiance ou d'incompréhension qui s'installe.
C'est un peu en train de se faire.
Je crois qu'effectivement, du chat et de la souris qui plaît pas trop aux médias, c'est ça.
Ce qui est important, c'est que les relations restent les plus harmonieuses possibles pour tout le monde.
Oui, et c'est pas tout à fait ce qui se passe, Aurélie Raya.
Non, je crois pas, mais après, elle est nouvelle. Il faut aussi que les gens s'ajustent. Mais j'ai l'impression que les journalistes britanniques habitués à suivre la famille royale leur reproche un peu de pas leur parler, de pas être là. Meghan n'a jamais vraiment fait un peu des petits rendez-vous en off où elle parle un peu aux journalistes. Elle le fait pas du tout, mais elle parle beaucoup aux Américains. Mmh. Et ça les agace un peu, en fait.
Ouais. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire comme elle l'entend, finalement, Isabelle Rivière? Et c'est pas qui bouscule un peu les codes?
Si, bien sûr. Enfin, bousculer les codes. Je sais pas ce que ça veut dire, moi, bousculer les codes, parce qu'en réalité...
Bah là, la fois, vous êtes bousculée.
On parle toujours de codes, de protocoles, et en réalité, ce sont des termes qui ne revêtent pas grand-chose. Je pense qu'il faut prendre les choses au coup par coup. Là, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir effectivement un photocall, un rendez-vous photo, oui, et qui sera aussi filmé. Là, dans quelques heures, c'est dans pas très longtemps. Il y aura la télévision britannique, mais il y aura aussi la télévision américaine. Et c'est quelque chose qui ne passe pas très bien dans la presse britannique, parce que la télévision du Commonwealth, par exemple, ne sera pas représenté. Or, le prince Harry, lui, est officiellement ambassadeur de la jeunesse du Commonwealth. Et Meghan, elle, est vice-présidente du Queen's Commonwealth Trust. Mmh. Ils ont professé tous les deux un attachement réel à cette organisation internationale fondée sur les vestiges de l'Empire britannique. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est la télévision américaine qu'il privilégie. Donc, c'est vrai que ça ne passe pas très bien.
Et ça bouscule un peu les codes, pour reprendre une expression peut-être galvaudée, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est à rebours aussi de la communication de Kate et William, où on voyait 10 heures après son accouchement Kate sur le perron maternité.
C'est la royauté. Enfin, je veux dire, la royauté, c'est le voir pour le croire. Donc à un moment, l'héritier du trône.
Mais elle n'a pas voulu faire ça, Meghan Markle.
Mais non, parce que déjà lui, le petit qui n'a pas toujours de nom,
oui,
il ne sera jamais sur le trône. Oui. Donc elle a moins d'obligations protocolaires, d'exposition. Donc ils peuvent réclamer de la vie privée quand on est marié au petit-fils de la reine d'Angleterre et au fils du futur roi.
Oui, ça vous fait
sourire. Toujours un petit peu étrange quand même. Au bout d'un moment, on se fait rattraper par les institutions. Ouais. Si on essaie de trop
bémol entre guillemets qu'on pourrait apporter à ça, c'est que c'est vrai qu'elle est maman pour la première fois à l'âge de 37 ans.
D'une certaine maturité, donc.
Oui, ils avaient envie l'un et l'autre que ce moment, d'avoir un moment un peu à eux, c'est-à-dire que ce soit pas un moment qui soit forcément partagé avec le monde entier. C'est vrai que ça, on peut le comprendre, mais on n'est pas obligé d'entourer ce moment-là de choses un peu improbables en termes de communication.
D'accord, mais c'est vrai qu'il l'avait dit, hein. Ils ont hâte de partager cette nouvelle passionnante avec tout le monde une fois qu'ils ont eu l'occasion de célébrer tout cela en privé en tant que nouvelle famille. Ça, c'était un petit communiqué au mois d'avril.
Mais après, ils ne sont pas non plus obligés de laisser filtrer des choses comme quoi... où Meghan se serait sentie désolée parce que Kate est due être sur les marches quelques heures après l'accouchement. C'est-à-dire Kate, c'est ce pourquoi elle est là aussi. Il faut le comprendre, une naissance, c'est pas... Quand on est dans une famille pareille, c'est aussi de la politique, ce genre de naissance. Ça vous dépasse un peu quand même.
Alors vous allez nous dire justement comment les Britanniques suivent cela. Vous qui revenez du Royaume, Aurélie Raya pour Paris Match, Isabelle Rivère est avec nous, journaliste et chef du service Royauté au magazine Point de Vue. Parlez-nous aussi, si vous le souhaitez, de cet art, de cette manière de raconter une histoire de cette famille royale qui vous captive peut-être depuis de longues années, si vous êtes lecteur ou de Paris Match de Point de Vue. N'hésitez pas, on vous attend avec Jenny.
On fait le tour de la question avec la poste.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Dans les coulisses de la naissance du Royal Baby, comment Meghan et Harry bousculent un petit peu la monarchie?
Hey, tous les événements de la vie intime des membres de la famille régnante sont vécus par les Britanniques comme des événements nationaux, et c'est le cas pour les différentes naissances, avec l'attente, la fébrilité de femmes de bookmakers, même si ce petit ne sera pas appelé à régner. On attend encore son prénom et sa photo. Il y avait cette effervescence réellement tout ce week-end encore. Vous y étiez, Aurélie Raya, pour Paris Match.
Après, Windsor, c'est quand même une petite ville très très tranquille où il ne se passe pas grand-chose. Donc il y avait beaucoup de journalistes qui commentaient le fait qu'ils attendaient une naissance. Après, les gens, il y avait quelques fans, mais c'était pas la même frénésie que pour un mariage où l'événement est visible. Là, comme on sait qu'on va rien voir,
Bien sûr.
Bon, bah, on se promène et puis on voit les journalistes.
C'est
et
pour
on...
ça que ça fait plaisir aux bookmakers,
voilà.
Hein, qui s'excitent toujours
qui sommes,
autour du...
C'est plutôt les journalistes qui étaient très nombreux c'est à Windsor.
Ça. Les bookmakers, ça s'agite autour du sexe de l'enfant d'abord, et puis maintenant, le fameux prénom. Alors qu'on attend, le petit est né donc lundi 5h26 du matin, le prénom devrait être donné aujourd'hui. Isabelle River, pourquoi cette attente ? Pourquoi ce... Là, on est dans le cadre du rituel et du protocole ?
Là, c'est pas très. Finalement, ils sont pas du tout en rupture avec une quelconque tradition. Il n'y a pas de tradition dans ce domaine. On a tendance à plus trop s'en souvenir. Mais lorsque le prince Charles est né, la première photo du prince Charles, il a fallu l'attendre pendant un mois. Ah. C'était une photo prise par Cécile Beaton de l'héritier du trône dans son berceau avec la reine tendrement penchée au-dessus de lui. Alors c'est vrai que on n'était pas encore à l'ère de l'ultramédiatisation des réseaux sociaux. On a pris son temps. Il y a quelque chose chez Meghan qui s'inscrit dans ce type de démarche aussi. Celle de retrouver la possibilité de prendre son temps. Comme le soulignait...
Ça sert à quoi ? Enfin, il l'avait avant la naissance, le prénom. Enfin, comme
alors,
tous les parents.
D'après ce que dit le prince Harry, même si le bébé était en retard d'un peu plus d'une semaine sur le terme,
ils
avaient
encore,
eu le temps, dit-il, de réfléchir au prénom, mais il n'était pas encore tout à fait d'accord. Donc ça a peut-être pris encore deux, trois jours.
Non mais attends, c'est quand même du storytelling.
Bah oui, on en parle.
Deux jours après, le prénom. On continue l'histoire, l'histoire
c'est
ne s'arrête jamais.
C'est un feuilleton, là, c'est un feuilleton.
Mais c'est ce qu'on fait depuis 1000 ans avec eux.
Ah oui, et Spencer et Alexander tiennent la corde comme prénom. Alors on dit que soit...
Spencer
alors,
Oui,
bon oui.
C'est le grand famille de Diana.
Oui, c'est ça, exactement. Il y a des prénoms interdits, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas s'appeler ni George, ni
Kevin.
Pourquoi Kevin?
Bah, je sais pas, ce serait assez laid, mais
pourquoi
pas.
Il n'y a pas de prénom interdit.
On salue tous les Kevin qui nous écoutent.
Ben oui.
Il n'y a pas de prénom interdit.
Non, il n'y a pas de prénom interdit. Il est possible que Meghan soit plutôt à la recherche d'un prénom qui, qui réunisse les héritages américains et britanniques.
Voilà. Oui.
Peut-être pas typiquement britannique. Et encore, ça fait partie des 1000 bruits qui courent en ce moment. Il faut faire très attention à ce type de rumeur, parce qu'on verra bien lorsque le communiqué tombera.
Et il est vrai que la reine doit donner son aval pour le choix du prénom ?
Non.
En réalité, des mythes. Non, oui, la reine se mêle très peu, contrairement à ce qu'on croit, de la vie privée des membres de sa famille, particulièrement de celle de ses enfants et de ses petits-enfants. Oui. Lorsqu'ils ont un conseil à lui demander, elle est toujours là pour leur prodiguer, mais sinon elle ne va jamais se mêler spontanément de ce qui se passe dans leur vie intime.
Sauf qu'elle doit être prévenue la première, en cas de naissance. Ce qui fut le cas.
Elle a été la première prévenue de la naissance.
Oui. Ouais, pour ce 8e petit-fils, un moment qui fait du bien aux Britanniques, on est en plein Brexit, c'est un moment un peu compliqué, ça redonne une petite touche un peu comme ça d'énergie, Isabelle River, de votre point de vue ?
C'est un royaume qui aujourd'hui se sait profondément divisé sur ces questions politiques, cette question du Brexit. On voit bien que... là, le problème a tendance à s'éterniser. Et comme d'habitude, ces événements joyeux qui jalonnent la vie privée des membres de la famille régnante sont l'occasion pour eux de se réunir, de retrouver une forme de cohésion. Il y a un côté réjouissance nationale. Voilà, il y a un profond sentiment, en fait, d'appartenance nationale à cette Grande-Bretagne, soudée par sa famille régnante.
D'un coup, on repense à autre chose, on pense à son histoire... Il n'y a plus Theresa May
oui.
Et Jeremy Corbyn.
Ça veut dire que cette naissance fait la une d'absolument tous les journaux en Grande-Bretagne.
Oui, mais après, ils attendent vraiment le bébé, le voir, où là, ça sera complètement...
Martelé.
Oui, martelé.
Bien sûr. Au centre des attentions, une jeune femme surprenante, américaine, actrice de surcroît. On va parler dans un instant de Meghan, de son image, de ce qu'elle infuse aussi dans cette famille royale avec nos invités. Isabelle River, de Point de vue, le magazine sort en kiosque aujourd'hui. Vous allez nous montrer et nous raconter la couverture dans un instant. Aurélie Raya, Paris Match, ce sera demain. Et c'est le couple phare, Prince Harry, Meghan Markle, qui feront la une, hein.
Tout à fait.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Après la naissance du fils de Meghan et Harry, lundi matin, les Britanniques attendent, et nous aussi, désormais, le prénom et une photo de l'enfant. Et le mystère reste toujours entier.
Le baby Sussex fait la une de Point de vue, et l'on voit les mains entrelacées, les sourires si émus, le prince Harry à Windsor, devant les écuries royales. Isabelle River, c'est la photo que vous avez choisie, il est détendu, un petit pull à zip. Et on l'a trouvé, c'est vrai, très touchant, vous le disiez, précisiez, parce qu'on a toujours en image ce petit garçon de 13 ans qui perd sa maman, qui a bouleversé quand même le monde entier. Et finalement, on est assez heureux aussi qu'il fonde sa famille et qu'il trouve ce bonheur-là.
Oui, par le passé, enfin, ces dernières années, il avait quand même multiplié les déclarations disant que lui aussi rêvait, comme son frère, de pouvoir se marier avec une femme aussi formidable que sa belle-sœur, de fonder à son tour une famille, etc. Maintenant, ça y est, c'est fait. Et comme vous le dites très justement, il y a une image que les Britanniques n'ont jamais oubliée, c'est celle de ce petit garçon qui, à 12 ans et demi, marchait le regard baissé derrière le cercueil de sa mère. Harry, c'est un peu l'enfant du royaume tout entier. Donc aujourd'hui, c'est un homme heureux, un nouveau père de famille. Je crois que les Britanniques se réjouissent pour lui, tout simplement. Il y a un côté très, très simple de partage de bonheur, en fait, dans cet événement.
Vous avez toujours eu un petit faible, vous, Isabelle Rivière, pour Harry.
Oui, c'est vrai.
Par rapport à William.
Non, je ne fais pas de comparaison, mais il y a chez Harry une spontanéité, une générosité. Voilà, pour avoir beaucoup parlé avec des membres de l'entourage des deux frères, c'est vrai que c'est vraiment ce qui revient dans la bouche des gens qu'ils connaissent bien, c'est il a le cœur sur la main.
Ouais. Et Aurélie, elle préfère William.
Ah
ouais.
Ah mais c'est purement physique. Hein.
Il perd ses cheveux.
Oui,
vous disiez,
non, c'est le problème, c'est qu'à 20 ans, il était extrêmement beau et là, il est un peu, ça va plus quoi, ça va moins bien.
Ah oui, bon, il a pas voulu faire d'implant.
En même temps, je peux le comprendre. Communiquer sur des implants.
Il est resté aussi authentique, voilà. Mais il est sorti de sa période tumultueuse. Harry s'est assagi aujourd'hui. Il a trouvé l'âme sœur. Les frasques sont finies ou ça reste un jeune. Voilà, qui aime faire la fête.
Là, la fête, depuis quelques années, a un petit peu disparu de son emploi du temps.
Ouais.
Ça, là, il se tient, là,
se
c'est
tient
le,
bien
là,
dans ses fameux
codes aussi.
On est dans
l'opération bon père de famille, bon mari. Il a beaucoup fait la fête avant, donc je pense que ça ne va pas lui manquer
tout
de suite.
Il a mûri, voilà.
Ouais.
Et son rôle de père va lui tenir à cœur, évidemment. C'est ce que vous entrevoyez, le bébé de l'amour aussi, Harry et Meghan, avec... ce conte de fées entre un prince et une actrice qui a beaucoup fait jaser, Meghan l'Américaine, qui aussi apporte bien sa philosophie, son esprit américain. Ce vent américain qui souffle sur le royaume ne fera peut-être pas bon ménage avec les médias qui le prennent un petit peu mal en ce moment. Aurélie Raya, vous nous le disiez. Mais elle a le mérite d'apporter une modernité aussi, peut-être, Meghan ?
Oui, alors la modernité, c'est toujours un terme un peu fourre-tout. Je ne sais jamais comment le définir. La modernité, c'est être jeune ou être américaine ou être différente.
Fermer la porte de sa voiture toute seule, par exemple.
Voilà, ouais, grosse modernité. Oui, elle fait ça. Mais je ne sais pas
ce que
ça recoupe.
Dire, sans ironie. Ça veut dire que ce sont des gestes aussi qu'elle... Voilà, non, c'est des gestes du quotidien.
Oui, mais au final, elle ne travaille pas. Enfin, elle a arrêté de travailler. Elle a arrêté son blog Instagram.
Oui.
On rentre quand même dans un certain type de vie. Alors après, la modernité vient peut-être du fait qu'avant, elle a dit ses opinions, elle s'est engagée, elle a travaillé. Donc ça, c'est quand même nouveau pour, je crois, la famille royale d'avoir une femme active.
Ouais.
Non mais c'est vrai. Et donc ça, c'est effectivement moderne. Mais après, on rentre dans une institution qui est donc tout sauf moderne. Donc elle va apporter quelque chose. Elle se modernise, elle s'adapte, on va dire.
Oui, enfin, si la royauté était considérée comme une institution qui avait perdu toute sa modernité, je pense que ça ferait longtemps qu'elle serait plus
là. Oui, elle serait plus là.
C'est ce qui caractérise...
Au contraire, il s'adapte régulièrement. Quand
oui,
même.
Ce qui caractérise, l'une des choses qui caractérise le règne d'Elisabeth II, qui a vu quand même des bouleversements médiatiques, sociaux,
67 ans de
incroyables,
règne, quand même, hein,
c'est d'avoir su accompagner en fait des changements qui se sont faits subtilement au sein de l'institution monarchique, sans que ce soit trop visible, mais en même temps,
ouais, mais
de manière que
ce
soit suffisamment pour que l'institution reste adaptée à l'époque moderne, justement.
Oui, mais avait-elle le choix si elle refusait
C'est pas une question de choix, c'est une question d'intelligence. Il y a quelque chose, la reine est apolitique, mais finalement il y a quelque chose de très politique dans la démarche d'Elisabeth II depuis son accession au trône, c'est qu'elle a toujours su rester en accord avec son temps. La royauté, vous voyez, c'est un sujet qui passionne le monde entier. Si c'était démodé, on en parlerait, on serait pas là ce matin à en parler ensemble.
Non.
Et c'est bien de la jeune génération se veut moderne et c'est normal et c'est sain puisqu'elle est là pour créer du lien avec les jeunes générations du royaume et de l'ensemble des pays du Commonwealth de manière que la couronne se perpétue,
et puis on crée un relais avec ces nouvelles générations.
C'est créer un relais
plus moderne.
Mais la jeune génération n'est pas la seule dépositaire de la modernité. Le prince Charles est un homme
incroyablement
visionnaire. moderne, c'est un plus visionnaire, avant-gardiste.
Mais oui, sur quel sujet par exemple ? Sur
L'écologie, non, déjà.
Sur l'environnement.
Oui, l'environnement.
Lui et son père, le prince Philippe, qui a été l'un des premiers à alerter sur les dangers de la pollution atmosphérique au début des années 50. Mm-hmm. Mais le prince Philippe a longtemps été l'un des seuls à prêcher à l'époque dans le désert sur ce problème qui est aujourd'hui un problème qui nous concerne tous. Donc il y a chez le monde de la famille régnante une formidable modernité, une formidable adéquation avec leur époque. Et ça n'est pas parce que la royauté s'accompagne de traditions qui peuvent paraître un peu désuètes, mais qui sont quand même indispensables à son image, que ça fait des membres de la famille régnante des gens qui ne sont pas modernes. Il y a deux choses, en fait, à bien séparer.
Oui, oui, oui. Non, mais c'est ce que je rejoins tout à fait sur le sujet, Aurélien.
C'est aussi pour perdurer qu'ils sont obligés de... Le but de chaque membre de la famille royale, c'est de rester au pouvoir. Enfin, il ne faut pas que ça s'arrête, cette histoire
de Windsor.
Oui, mais
ils y vont avec leur personnalité.
Et souvent, ah oui, tout à fait, mais enfin, souvent une institution qui meurt, c'est une institution sclérosée, qui n'a plus de lien avec ce qui l'entoure. L'intelligence, effectivement, d'Elisabeth et des Windsor, c'est qu'à chaque fois, ils prennent dans leur famille pour rebrander peut-être les Windsor, comme on dirait. Il y a toujours, ils adaptent, ils avalent, et ça repart. Parce qu'ils veulent rester à la fois relevant, comme on dit, et sur le trône. Je veux dire, il n'est pas question de passer pour des vieux qui se baladent en carrosse.
Oui, rester cohérent, pertinent avec leur temps aussi, bien sûr.
Sinon, ça n'a pas de...
Mais ces petits bouts de chou, ce baby boy de 3,3 kg qui a dû prendre quelques grammes depuis lundi, il ne sera pas héritier du trône. Il est septième dans l'ordre de succession, nous le disions. Quel titre aura-t-il, Isabelle Rivière ?
Alors ça, on l'ignore. Il ne naît pas automatiquement avec un prédicat d'altesse royale ou un titre de prince.
D'accord.
Il y avait eu un certain nombre de réformes instaurées par le roi George V. Il y a de cela déjà plusieurs décennies qui font que c'est à la reine Elisabeth de proposer un prédicat ou un titre à Harry et Meghan et à eux de l'accepter ou non.
D'accord. Voilà, sinon, ce sera un petit lord.
Sinon, pourrait être un lord ou la presse britannique.
Un duke.
La presse britannique parlait hier d'un possible comte de Dumbarton, qui est l'un des titres du prince Harry.
Oui.
Mais en fait, il n'est pas sûr du tout que le couple souhaite pour ses enfants des titres de noblesse. Donc, il est possible que ce soit, qu'il n'est pas... Comme les enfants de la princesse Anne, par exemple, à qui la reine Elisabeth, au moment de la naissance de Peter et Zara, avait chaque fois proposé qu'il soit prince, princesse, lord, lady. Et elle a toujours refusé, pensant que ce type de titre qui marquait
peut-être
trop fortement l'appartenance à la famille royale serait un poids à porter plus qu'un avantage dans la vie.
Après les réjouissances et cette naissance donc lundi 5h26, l'attente du prénom et de la photo de ce petit baby boy, l'enfant d'Harry, l'enfant de l'amour et du bonheur, et de Meghan Markle. Voilà, on vous raconte aussi un peu un conte de fées, ça nous fait du bien finalement aussi jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Isabelle Rivière et Aurélie Raya.
On va rester jusqu'à 13h pour avoir le prénom
ça,
quand
c'est
même.
Sûr.
C'est l'antenne.
Allez, il arrive ce prénom, tout de suite.
Dans les coulisses de la naissance du fils de Meghan et Harry, nous sommes avec Isabelle Rivière, qui est journaliste et chef du service royauté au magazine Point de Vue, auteur du livre Charles et Camilla, une histoire anglaise, c'était en 2017 aux éditions Fayard. Et puis Aurélie Raya est avec nous également, elle est journaliste à Paris Match, envoyée spéciale régulière en Grande-Bretagne pour couvrir The Royal Actuality.
Eh oui, et vous y étiez encore dans le royaume ce week-end. Vous êtes rentré lundi soir, le temps de boucler la une de Paris Match qui sortira en kiosque jeudi, alors que Point de Vue sort aujourd'hui avec à la une cette photo réjouie du prince Harry, qui, je citais tout à l'heure, ses mots pour évoquer sa femme, la maman et le bébé, qui se portent à merveille. Et il a ajouté ce que font les femmes pour donner la vie. C'est extraordinaire. Je suis immensément fière de mon épouse. Voilà ce qui participe aussi à cet attachement qu'on peut avoir un peu midinette. C'est vrai, mais on assume avec la famille royale, avec les familles royales, et en l'espèce celle-ci, on est là-dedans, Isabelle Rivière.
Oui, mais c'était quand même assez inhabituel pour un monde de la famille régnante de venir comme ça, faire ce type de
déclaration qui avait l'air pas du tout écrite.
Vous voulez dire qu'il a bousculé les codes
entièrement, entièrement spontané.
Elle est absolument placée qu'il bouscule les codes et vous dites non.
Le fait qu'il rende hommage à sa femme et à la difficulté que représente un accouchement, donner la vie, ça se fait jamais.
Ça avait l'air très spontané.
Oui, c'est ça. Donc on le sent très amoureux. Il avait l'air à la fois un peu emprunté, ému, fatigué. Oui, ça avait quelque chose de touchant, mais il est souvent touchant.
Comme tous les papas.
Comme tous les jeunes papas.
Est-ce qu'on a deux types de familles qui, je ne vais pas dire qui s'opposent, mais en tout cas qui se font face quand même. D'une certaine manière, une famille un peu plus classique qu'a été William, parce qu'ils sont aussi dans un protocole, dans une exigence de la fonction qui arrive. Et un couple plus libéré dans sa manière de vivre justement ce protocole-là, Aurélie Raya.
Ah bah, ce sera quand même deux couples très différents, je pense, dans les années à venir. Les Cambridge vont... Bah, eux, ils ont le boulot à la fin, quoi.
Oui.
Donc, ils vont pas tellement sortir des sentiers qui sont quand même bien battus. Mm-hmm. Et les Sussex, a priori, ce sera un mélange un peu de célébrités et de personnages royaux. Mm-hmm. Mais c'est pas pareil. Donc, ils vont peut-être... ils ont des copains célèbres, ils ont une vie qui est en train de se... Comment dire, ça va être différent. Ça peut être, ils vont peut-être passer du temps à Los Angeles.
Ah oui, on en parle de ça ?
Non, mais c'était une supposition qui était parue dans le Sun il y a quelques jours, qui disait qu'elle cherchait une maison à L.A. pour être avec plus proche de sa mère, ce à quoi je ne crois pas encore tout de
mais
suite.
Mais ça, par exemple, elle aurait le droit.
Ah oui, mais la sécurité coûterait très cher. Ouais. Et c'est ça qui est le problème souvent, c'est que les Britanniques pourraient leur reprocher qu'un coût très élevé, parce qu'il faut quand même toujours. Ils sont toujours surveillés, ils sont toujours avec des gardes du corps auprès d'eux. Et ça, c'est un coût très élevé.
C'est l'argent des contribuables britanniques.
Voilà,
hein.
Donc on peut leur demander des comptes quand même, toujours. Il ne faut pas oublier que l'argent. Ce n'est pas des self-made men, hein, c'est l'argent, il vient de.
C'est ça. Et ils n'ont pas le droit de travailler ou la fonction exige qu'ils restent comme ça, des représentants sans travail.
Ils sont quand même financés
Oui, par le
duché de Cornouailles, en l'occurrence par le prince Charles. Mmh. Ils ne sont pas censés travailler, ils sont censés être au service de la couronne. Mais pour revenir juste une minute sur les États-Unis, la fascination, il y a quand même un intérêt, une attraction qui s'exerce sur le prince Harry venant des États-Unis. Et je pense que c'est quelque chose qu'il a hérité de sa mère. On l'a oublié, mais dans les dernières années de sa vie, Diana avait transféré les trois quarts de ses activités humanitaires et caritatives aux États-Unis. Mmh. La vente de ses robes du soir en 97, quelques mois seulement avant sa mort, avait eu lieu chez Christie's à New York. Et lorsqu'elle est décédée en août 97, elle cherchait déjà depuis quelques mois une maison pour s'établir aux États-Unis. Donc il y a
une histoire.
Il y a une histoire qui se prolonge en fait à travers lui, ce dont il est à mon avis parfaitement conscient.
Puis je pense qu'il a un peu envie d'échapper de temps en temps au royaume. Il aurait bien envie d'être de temps en temps avec Meghan, un peu loin.
Il a eu des déclarations étonnantes.
Ouais.
Voilà. Il y a pas très longtemps, il a dit « Mais le trône, dans ma famille, personne n'en a envie ».
C'est ça, c'est étonnant de dire ça quand même.
Ça lui a été beaucoup reproché à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'était un petit peu maladroit.
Trop honnête.
Oui, une forme de franchise qui lui est régulièrement reprochée.
Oui, donc c'est quand même un esprit rebelle, en tout cas déterminé. Et en tant que représentant du Commonwealth, on peut comprendre qu'une éventuelle expatriation fasse un petit peu mouche.
Oui, puis il ne faut pas qu'il se marche sur les pieds, parce qu'il y a la reine est donc sur le trône depuis quand même très longtemps. Donc le prince Charles attend. Mmh. Et ses deux fils ont fait des familles, donc ça fait beaucoup de gens qui attendent un rôle, enfin qui attendent d'évoluer. Et donc tous ces princes vont se marcher un peu sur les pieds s'ils restent un peu trop proches et à faire des événements.
Mais le fait justement d'avoir attribué ces rôles au sein de l'organisation du Commonwealth à Harry et Meghan, c'est aussi une manière de leur donner un rôle stable et clair, bien défini en tout cas au sein de la famille régnante. Ils ont d'ailleurs, le bruit court d'ailleurs, là il est quasiment certain, qu'en 2020 ou 2021, ils iraient s'établir quelques mois dans l'un des pays africains de l'organisation du Commonwealth avec leur enfant pour vivre une expérience humanitaire sur place, enfin, y remplir une partie de leur mission
comme ambassadeur,
au sein de cette
comme ambassadeur de, ce,
et
de cet ensemble.
Qui serait tout à fait en cohérence avec le rôle qui leur a été donné par Elisabeth II.
Isabelle Rivère est avec nous pour Point de vue, auteur de Charles et Camilla, une histoire anglaise, mais on parle du rôle aussi de Meghan et d'Harry dans cette monarchie britannique avec Aurélie Raya, journaliste à Paris Match et envoyée spéciale régulièrement dans le Royaume pour couvrir cette actualité. À tout de suite et jusqu'à 11h encore, nous parlons de cette actu sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question avec Wendy Bouchard jusqu'à 11h sur Europe 1.
avec ce matin un invité exceptionnel, le bébé royal anglais.
Dont on attend le prénom, peut-être la photo. Soyez patients, chers amis, si vous êtes absolument accro à cette famille royale. Si vous êtes lecteur, lectrice de Point de Vue ou de Par Image, vous aurez votre compte cette semaine avec évidemment des dossiers spéciaux consacrés à cette naissance royale pour le 7e héritier du trône, le 8e arrière-petit-fils de la reine Elisabeth. Ivan nous écrit sur Twitter, hashtag Europe 1, le duc et la duchesse de Sussex ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? On attend justement.
Ah, alors ça c'est le monsieur et madame machin
story,
ont un fils.
Success story. Je t'ai oublié de le faire.
Non.
Bon, c'était rigolo. Et merci, Ivan. Ça nous fait plaisir. Excellent. Des règnes. Monique nous écrit, la famille royale, ça ne m'intéresse pas, sauf les toilettes de ces dames. Par contre, le mariage de Meghan avec cette chorale magnifique, oui, ça donnait un côté humain et joyeux à la monarchie. Quant au jeune Harry avec son association sportive pour les blessés de guerre, alors là, j'applaudis. Ça s'appelle Invictus Games, c'est ça. En quoi ça consiste, Isabelle ?
Ce sont des Olympiades, une série de compétitions sportives qui se déroulent donc maintenant tous les ans dans un pays différent et qui rassemblent des vétérans, des armées du monde entier. C'est souvent des militaires, d'anciens militaires,
oui,
lourdement blessés, voire lourdement handicapés, et qui s'affrontent de manière confraternelle et bon enfant dans des épreuves sportives qui sont d'assez haut niveau.
Il doit y aller, le prince Harry. Il a oui, journée il un peu son départ avec la naissance.
Il va demain à La Haye pour lancer la prochaine édition qui se déroulera aux Pays-Bas.
Ouais, ça fait partie aussi de ses engagements et de cette générosité dont vous parliez, l'une et l'autre, Aurélie Raya, Isabelle Rivère. J'aimerais que vous nous parliez du rapport qu'entretient justement Harry et Meghan avec la reine. Est-ce qu'on en sait des choses ? Parce que vous disiez tout à l'heure, elle ne se mêle pas de la vie, de ses arrières, de ses petits-enfants.
La reine a toujours été assez proche d'Harry.
Bah oui, c'est ça.
Je crois qu'elle l'aime vraiment bien, celui-là. Enfin, elle l'aime vraiment... Elle a une affection pour lui qui se voit, moi, je trouve.
Et avec Meghan, ça passe ou ça casse ?
Ah ben alors, je pense qu'elle a accepté le mariage, qu'elle a accepté qu'ils soient ensemble, donc c'est que ça doit quand même passer. La reine, elle a plutôt envie que son petit-fils soit heureux. Mmh. Donc je pense que là-dessus, elle n'a pas dû faire beaucoup de remarques. Elle l'aime vraiment beaucoup. La vidéo qu'il avait faite avec elle,
oui, voilà,
elle est géniale.
Pour lancer l'édition, je crois que c'est l'édition américaine, ouais, des Invictus Games.
Quoi
il y avait un petit clip vidéo. Harry était assis sur un canapé avec la reine en train de feuilleter un petit dépliant. Mmh. Donc il faisait jouer à sa grand-mère son propre rôle. Ouais. Et ils avaient un petit dialogue comme ça. Il lançait et elle avait beaucoup d'humour d'ailleurs.
Je crois qu'il parlait à Obama en disant.
Oui, il s'adressait à Barack et Michelle Obama à distance qui répondaient par image
de l'interposé.
C'était très sympa. Mais elle a quand même un humour alors qui ne se voit pas dans le cadre de ses fonctions officielles. Mais on l'a bien vu dans ce clip vidéo qu'elle avait accepté de tourner pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec Daniel Craig,
ses corbis,
et ce saut en parachute resté dans toutes les mémoires.
Mais on n'y croyait pas. Moi, j'étais persuadée que c'était le sosie de la reine d'Angleterre qui avait tourné ça dans un château lambda.
Non, c'était bien
elle qui avait tourné
la reine. Le saut en parachute, c'est pas la reine.
Oui, non, mais d'accord.
C'était un parachutiste avec une robe.
Oui, ça, d'accord. C'est problématique.
Avec ses chiens dans les couloirs.
C'est la modèle. Il n'y a eu qu'une seule prise.
Oui, elle avait dit une seule prise.
Alors d'ailleurs, on parlait des bookmakers tout à l'heure qui spéculent en ce moment sur le prénom de l'enfant. Certains spéculent aussi sur le fait qu'il deviendra peut-être le président des États-Unis. Ça fera plaisir à chacun. Donc vous voyez que les paris vont loin.
Très loin, effectivement. Oui.
Ce sont les nuits d'ivresse peut-être aussi.
Oui, sûrement.
Le rapport d'Harry avec Charles, parce que Charles sera le prochain roi d'Angleterre. Il attend ce titre depuis un certain temps maintenant. Ce fut un papa aimant, Isabelle Rivère. Continue aujourd'hui d'entretenir des liens.
Un papa très aimant.
Oui.
Un papa aussi qui s'est efforcé d'être le plus présent possible après la disparition de Diana en 97, dont il a, ça on ne sait pas forcément, mais dont il s'est efforcé d'entretenir le souvenir de manière très positive auprès de ses fils après la disparition de Diana. Et il l'avait mis partout à Highgrove, chez lui, sa résidence principale dans le comté de Gloucestershire, des photos de la princesse pour que voilà
ils grandissent aussi dans cette
pour qu'ils grandissent aussi
image,
dans,
oui,
dans un souvenir heureux de leur mère et en tout cas des années heureuses que Charles et Diana ont connues ensemble parce qu'il y en a quand même eu quelques-unes
beaucoup
mais oui non si il y en a quand même eu et en tout cas pour ses fils il est je pense d'un soutien et d'un conseil précieux. On dit que la relation qu'il a avec Harry est particulièrement proche du fait du caractère de Harry qui peut-être un peu plus justement spontanée. Voilà,
que, je crois qu'il s'entend très bien avec Meghan, Charles.
Il s'entend très bien avec Meghan et Camilla aussi. D'ailleurs, Camilla avait eu cette phrase formidable au moment de l'annonce des fiançailles en disant ce que perd l'Amérique. C'est un gain pour la Grande-Bretagne aujourd'hui.
Mais c'est lui qui a accompagné, si je ne m'abuse, Meghan à l'église puisque, aussi. Hein,
le père était un peu.
Bah oui, c'était une belle image, voilà, aussi de fraternité entre le prince Charles et Meghan. J'aimerais vous poser la question juste après la pause de cette fascination, d'un certain égard, pour cette famille royale là, parce qu'il n'y a pas le même engouement pour les autres familles royales. Elles sont pourtant nombreuses, familles royales ou princières. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ces Cambridge, avec ces Sussex? Avec ses Windsor, avec ses rois, ses reines et ses princes. À tout de suite sur Europe 1, alors que l'on attend aujourd'hui le prénom du baby boy.
Et les photos.
Oui.
Europe 1.
11h10 sur Europe 1. Alors nous nous demandons pourquoi tant d'attachement à la famille royale d'Angleterre. Pourquoi cette famille-là et pas d'autres?
Mais oui, regardez, le Royal Baby, il est né lundi, il est déjà prince des cœurs, comme le titre Le Parisien aujourd'hui. Isabelle Rivière, Aurélie Raya, vous êtes avec nous pour Point de vue et pour Paris Match. Combien il va rapporter? Eh bien, l'arrivée d'un nouveau-né fait le bonheur des parents, évidemment, avec des retombées financières dans la foulée des naissances successives des trois enfants de Kate et de William. $1 milliard de retombées, avec des effets qui peuvent s'étirer pendant 2 ans. C'est bon aussi pour l'économie du royaume, mais ça traduit l'attachement, l'engouement, pas simplement des Britanniques, pour ce sujet. Comment vous l'expliquez, Isabelle Rivière? Il y a des familles royales et princières en Belgique, en Suède, au Danemark. On va parler de Monaco dans un instant, mais il n'y a pas qu'elle, il n'y a pas que cette famille britannique.
Non, non, mais alors, avec la famille régnante britannique, la France, mais pas seulement la France, je pense que ce sont les opinions publiques du monde entier, entretiennent un lien qui est fait de fascination, de curiosité. Et la monarchie britannique a su entretenir cette fascination en continuant de s'entourer d'un faste qui est quand même réel, qui se manifeste régulièrement dans les grandes cérémonies officielles. C'est un faste qui a quand même plus ou moins disparu dans les autres monarchies ailleurs dans le monde, si on fait exception de la Thaïlande, hein, dont on a vu ce couronnement extrêmement fastueux du nouveau roi Ramadis il y a quelques jours. Mais je crois que c'est aussi et surtout une monarchie qui s'est incarnée au fil des générations dans des personnages ultra charismatiques qui ont tous eu des parcours de vie, des histoires qui ont fait le tour du monde. La reine Elisabeth II, en soi, est un personnage aujourd'hui quasiment légendaire.
On parlait de la Seconde Guerre mondiale tout à l'heure, il y a aussi cette histoire commune qui nous a rapprochés, et puis l'amour de la reine d'Angleterre pour la France. Premier voyage en 1948.
Premier voyage en 1948, à l'époque, c'est elle répond à une invitation du gouvernement français, mais elle choisit quand même délibérément de faire son premier voyage officiel de jeune femme mariée avec son mari, hors des frontières de la Grande-Bretagne et hors Commonwealth, à Paris.
Et elle parle français.
Et elle parle français, puisque sa mère avait insisté pour qu'elle parle français très tôt. Elisabeth II a appris le français quand elle avait 5-6 ans. Mmh. Sa mère était profondément francophile et on a, en la personne d'Elisabeth II, une reine profondément francophile qui a effectué un très grand nombre de visites d'État dans notre pays et aussi, ça on le sait moins, un grand nombre de visites privées. Sa mère, Queen Mum, est venue pendant 20 ans, tous les ans, pendant 8 ou 10 jours, découvrir le patrimoine et les merveilles gastronomiques des régions françaises.
Elle était mignonne, Queen Mum.
Et inspirée par son exemple,
Elisabeth
l'a fait aussi.
Ah ouais. Ah, c'est drôle, les visites privées, bon, ça, il n'y a guère que vous qui connaissez justement ces déplacements. Aurélie Raya, vous rejoignez Isabelle Rivière et ses commentaires sur l'attrait qu'on peut avoir pour cette famille en particulier.
Ça ne tient qu'à eux. Enfin, je ne sais pas, je ne pense pas que les gens en France s'intéressent beaucoup à la famille royale de Norvège ou de Suède.
La famille de Monaco, quand même, parce qu'elle est proche de nous qu'il y a aussi le culte Régnier, Grace.
Ils sont beaucoup plus people, la famille de Monaco, que les Anglais, non?
Ah ben, c'est pas le même royaume, c'est sûr que c'est pas la même histoire, c'est pas le même royaume. 2 km de terrain, bon, ça laisse moins de possibilités.
Mais on a quand même des comparaisons entre Albert de Monaco et le prince Charles, notamment la conscience écologique.
Voilà, alors, Albert de Monaco est l'un des, pareil, et comme le prince Charles, est l'un quand même des premiers à avoir une conscience environnementale, écologique, et à avoir chercher à, oui, mais ça, à diffuser pas... ce message à travers le monde.
Bah, qui continue oui, mais c'est pas ce qui fait la magie de...
Non,
de...
mais ça les rend existants. Mais c'est pas ce qui fait la magie. Mais ça les rend existants aux yeux du monde, aussi dans les enjeux un peu sociétaux.
Oui, mais justement, ce qui...
ils sont pas à côté
pour,
des
pour
enjeux.
Pour revenir juste une seconde sur, sur la famille de Monaco, la dimension people qui a été entretenue à, un à une certaine période de son histoire...
Mais qui a servi le royaume même.
De, par une partie de la presse. Je sais pas si ça l'est... Si ça les a servis entre nous, je suis pas sûre de ça. Il y a eu effectivement ce mythe fondateur, la rencontre de Grâce et Régnier en mai 55.
C'est ça, ouais.
Voilà, qui est
grâce à Paris Match.
Grâce à Paris Match, rencontre fondatrice entre guillemets du Monaco moderne. Ensuite, effectivement, il y a une partie de la presse qui s'est emparée de ce phénomène-là, mais
enfin,
il
n'en
reste
voulu.
Pas moins que Monaco est un État. Le prince Albert est un chef d'État. Qui fait le tour du monde plusieurs fois par an pour justement alerter les gouvernements du monde entier sur les dangers qui menacent la planète, l'environnement.
Mais rien n'égale la famille royale britannique. Vous êtes envoyé pour quels événements d'ailleurs, vous régulièrement, Aurélie Rayam?
Mariage, naissance... Là, j'ai fait donc 4 naissances et 2 mariages.
Ouais.
Donc j'espère que je ne serai pas avec un enterrement bientôt. Parce que...
bah, le prince Philippe va bien. Hein.
Ah, il va très bien. Il a fait de la... on l'a vu en calèche il y a 2 jours.
Mais 97
ans. Il a 97 ans.
Wow.
Non, donc c'est des événements assez importants. Ouais. Ou alors, aussi de temps en temps, pour un peu... quand ils font des... Je me souviens de les avoir suivis. Quand un peu, ils ont des obligations pas très importantes, mais pour les voir de près.
C'est ça.
Pour les voir de temps en temps.
Ce qui est assez rare, finalement. Hein, parce
ce qui est... Oh, si, on peut les voir. Même il suffit de regarder leur agenda.
D'accord.
Et à un moment, de se décider de voir s'ils vont... Et de juste pour les voir,
et ça fait quoi de les voir de près?
Eh bien, moi, j'ai serré la main de Kate et William, parce que je me suis mis dans la foule. Mmh. Bon, c'est assez marrant.
Voilà.
Enfin, c'est assez étonnant.
On se sent un peu
parce
sujet.
Que Kate... Ouais, non. On les voit de près et... Kate est très, assez peu naturelle, mais elle est quand même très jolie. Mais
elle est très pro.
Elle est très pro. En fait, on voit le côté professionnel exactement de leur façon de communiquer et d'être.
Merci, merci. Aurélie Raya pour Paris Match, que vous retrouvez en kiosque demain avec à la une ce couple et la photo au mystère du bébé. Isabelle River, chef du service royauté au magazine Point de Vue. Bah, vous aurez le prénom. Je suis désolée, je pensais qu'on aurait la possibilité de vous le donner pendant cette émission. Ça tombera un peu plus tard. La photo dans l'après-midi, peut-être, on verra. Merci en tout cas, mesdames, et à demain, Chargélie.
À demain.
Et bon 8 mètres de commémoration.
Oui, c'était le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.